Bonjour et bienvenue dans Kixa. Aujourd'hui, on accueille Obonoise. Comment vas-tu, Obonoise ?
Ça va très bien et toi ?
Alors, je voudrais qu'on commence par ce que tu nous expliques un peu, quel genre de musique tu fais.
Alors, c'est un spectre assez large. Moi, j'ai fait beaucoup de musique ambiante, électronique, full analogique, donc avec plein d'instruments, de machines à la maison. J'ai commencé un peu de sampling il y a quelques années, il y a 4-5 ans. J'ai commencé à enregistrer des voix, ma voix, des bruits. Et aujourd'hui, je pense que je mélange un petit peu les deux. Donc, ça va osciller de musique ambiante. Il y aura de l'électro, électronica, un petit peu de techno.
Bah, du coup, on va le découvrir en fait en écoutant un morceau. Mais juste avant d'écouter un de tes premiers morceaux, je voudrais que tu nous racontes l'histoire de pourquoi Obonoise, pourquoi tu t'appelles comme ça.
Quelle drôle d'histoire. Alors, c'est une histoire de ma petite adolescence. J'étais dans ma chambre enfermée. Je commençais à tester, tu sais, GarageBand, les logiciels de son, les trucs qu'on avait à disposition quand on avait la chance d'avoir un ordi à la maison gamin. Et Obo, alors, Obo veut dire vagabond en anglais. J'étais jamais vraiment à la maison. J'étais un petit peu en train d'errer à droite à gauche chez les copains. Donc ma mère disait arrête de vagabonder, tout le temps tu vagabondes, donc Obo. Et mon père me demandait tout le temps c'est quoi ce bruit dans ta chambre, c'est quoi cette musique, c'est pas de la musique, c'est du bruit, donc noise. Donc ces deux tares sont devenus ma force aujourd'hui, Obo, noise. Les deux manières dont me décrivait.
Je trouve ça trop mignon que tu as remplacé le nom que t'ont donné tes parents par le surnom que t'ont donné tes parents, tu vois.
Un peu ça, ouais.
Et ben, je propose qu'on écoute déjà un premier morceau et après on en discute. Alors, lequel des morceaux tu voulais qu'on écoute en premier ? On avait Palmera, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, non ?
Palmera qui est sorti sur le dernier album, donc
oh
tu peux...
Et est-ce qu'on ne se laisserait pas Palmera pour la toute fin d'émission ?
Si tu veux.
Comme ça, les gens...
Moi, je te fais confiance, tu mets ce que tu veux dans ceux que je t'ai...
Et ben, du coup, Sex is Work.
C'est parti, mon premier morceau électro-techno.
Et vous êtes sur Radio Galère 88.4 et vous allez écouter Sex is Work de Obonoise qui est avec nous en studio. Très bonne écoute.
This is what
Ben on vient d'écouter Sex is Work, donc Venose, de Funk avec nous en studio. Je voulais savoir, est-ce que c'est un rapport avec les travailleurs du sexe, Sex is Work ou Sex Worker peut-être ?
Oui, Work is Love. Alors pas seulement, mais oui, en partie oui. Je défends beaucoup les travailleurs, travailleuses du sexe. Et dont un ami avec qui j'ai passé un très bon moment à réfléchir à comment construire ce morceau.
Alors, je veux tout savoir.
Tu veux tout savoir.
Je veux savoir toute l'histoire de ce morceau.
Alors déjà, la boucle vocale que j'ai faite, que j'ai enregistrée, tu as vu la magie de la production, j'ai réussi à me donner une voix vachement, vachement sexy, sensuelle. Non, j'ai pitché ma voix et je l'ai passée dans un gros ampli pour donner une grosse dimension. Et en fait, ce phrasé, ça vient d'une interview que j'adorais de Fever Ray, qui à un moment dit « Sex is work, work is sex, sex is work, work is love ». Et du coup, je l'ai mis en boucle. Je savais pas du tout où ça allait partir. Et au final, comme j'étais un peu révolté à ce moment-là contre la condition des travailleurs, travailleuses du sexe en France, en Europe, dans le reste du monde en général, mais plus en France parce que ce sujet me touchait, je suis parti dans de la techno acide bien bourrine et à la fin tu entends que l'acide se finit comme un genre de coup de feu. Et c'était un petit peu mon moment protestation, coup de poing.
C'est quand on entend, quand la, entre guillemets,
la basse se termine, oui, tout à la fin et ça fait piou 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 piou. Et voilà, c'était mon côté un peu manifesto pour défendre le droit des travailleurs et travailleuses du sexe.
Oh, c'est très joli. Qu'est-ce que je voulais dire ? Excuse-moi, ça m'a perturbée. en fait, j'ai cru que j'allais devoir te poser la question pour les coups de feu, mais en fait, tu as répondu tout seul. qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc ça, c'est un morceau qui arrive quand, en fait, dans ta discographie ?
Dans ma discographie, il arrive en 2019. Il arrive un peu après mon travail d'ambiance. Il affirme le tout début de mon désir de faire de la techno acide, de l'électro. Il arrive dans ce moment où j'ai envie de faire des trucs dansants.
Et tout à l'heure, tu disais que tu avais du coup eu cette boucle d'interview en fait, qui t'avait inspiré et, qui, ouais, et que tu l'avais rebouclé. Est-ce que c'est pas ça aussi le travail du DJ à l'état pur, justement, de faire des fixettes
mais
sur
grave
des bouts de son?
Mais oui, surtout quand on est un peu fangirl, tu sais, de fanboy, fangirl de quelque chose. Ouais, cette interview m'avait beaucoup marqué. Et ouais, c'est une personne que j'apprécie beaucoup pour ses prises de position politique. Et
d'ailleurs, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu?
Du genre, Fever Ray, oui, c'est une artiste non-binaire suédoise que j'apprécie beaucoup, qui a commencé en 99 avec son groupe The Knife, avec son frère, qui a été très connu, qui a explosé, qui a fait un truc de dingue. Et à côté, en parallèle, elle a son projet Fever Ray, qui est plus axé sur le genre, sur le persona, sur la personne, sur la liberté du corps, sur l'appropriation de son propre corps. Voilà, quelqu'un qui m'a toujours fasciné.
Et du coup, oui, ça fait sens ce qu'elle disait dans l'interview, ou ce qu'elle disait dans l'interview, et ce que toi, tu en fais.
Alors, est-ce qu'on l'a utilisé dans le même sens ? Je sais pas, mais en tout cas, on s'est fait plaisir à utiliser ce terme que cette personne a décidé d'utiliser dans cette interview, et moi, je l'ai interprété à ma manière. Et j'en étais fort content.
Bah, ça marche, tu as raison. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler un peu de la cover, enfin du travail graphique qu'il y a, parce que moi, ça m'a marqué. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a marqué aussi sur le dernier projet que tu as sorti, c'est que en tant que noob, je suis peu en contact avec l'aspect visuel des DJ. Et du coup, et là, ça m'a marqué parce que je trouve que la façon dont tu fais tu travailles l'image, en fait, tu la travailles autant que d'autres musiciens qui, par tradition, ont beaucoup plus l'habitude, en fait, de faire des grands objets graphiques. Et là, justement, avoir le Sex is Work sur Spotify et voir, je sais pas si c'est toi ou pas, mais en tout cas, oui, bravo. Bravo, mes compliments à ta maman.
Merci maman, qui a été d'ailleurs un peu surprise de voir cette image apparaître un jour.
Mais écoute, j'ai trouvé ça très beau justement que tu dis « sex is work » et en fait, toi, dans ton travail d'image, tu te mets nu comme ça, hyper élégant, en noir et blanc, c'est super beau. Est-ce que tu
peux la belle époque quand j'avais 20 ans. écoute, cette photo, non, c'est drôle parce qu'on était en plein confinement, le morceau était prêt. Et moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif et j'avais besoin d'avoir une idée graphique assez rapidement. Donc, un ami photographe, Elliot Mazzola, que j'embrasse, qui est incroyable, qui de base fait autant de portraits que de photos de montagne.
Okay.
On n'a pas le droit de sortir de chez nous. On habite dans le même village en Haute-Savoie, à côté de Chamonix, à Argentière. Et on n'a pas 15 000 lieux pour faire des photos et non plus... pas une tonne d'inspi parce que c'est un moment un peu déprimant, quoi, c'est le confinement. Et donc on va dans mon, désolé maman, on va dans le parking de l'immeuble et je me fous à poil et on fait une série de photos et on s'arrête pas pendant 2 heures. Bon, je tiens à préciser qu'il faisait 4 degrés, on est en Haute-Savoie.
Bravo.
C'est pour ça qu'il y a rien qui dépasse dans la photo. Et du coup, on a fait plein de photos et celle-là, elle a marché. On l'a trouvée jolie, on l'a retouchée, on l'a mise en noir et blanc. Et pour moi, c'était elle qui marchait. C'était un corps.
Très très bon choix, surtout que je trouve que ce type de nu là, en termes de posture, on dirait des nus académiques, quoi, tu vois.
Mais ouais, merci.
Après, c'est super. On pourrait en parler des heures de comment est-ce que le nu dans l'iconographie, ouais, dans la peinture est très différente. Mais du coup, j'ai adoré ce côté hyper nu académique. En même temps, c'est dans un parking avec. Moi, je l'ai découvert en écoutant le titre Sex is Work. Ouais. Donc, vraiment, avec tout le truc du travailleur du sexe et tout, genre, ça fait vachement écho. Et donc, bravo. Et d'ailleurs, la pochette de ton dernier album, qui est par contre, elle, très orange.
très fruitée, très florale. Ouais.
Ouais. J'adore aussi. C'est le même photographe qui a fait le.
Alors, pas du tout, non, ça, c'est une série de dessins qu'un copain a fait et qu'ensuite on a retouché via des logiciels, tu sais, Photoshop, tout ça.
Okay.
Je crois qu'on a utilisé un petit peu d'intelligence artificielle pour donner le côté graphique fait au fusain. C'était un petit mélange de copains et c'était une petite table ronde artistique et au final, celle qu'on a trouvée était assez chouette.
Donc en fait, même quand tu fais de l'image, tu fais le DJ, quoi.
Mais ouais,
tu
grave.
Tu rassembles les gens, ouais. Tu leur dis alors on va prendre un bout de toi et un bout de
c'est
toi.
C'est un peu ça. Ah ouais.
Bouclé avec la machine.
Et éternel insatisfait et un peu maniaque et contrôle fric comme je suis, j'ai fait, je crois, 27 versions différentes avant de d'avoir les deux bonnes images, parce qu'on a celle du single Palmera et on a celle de l'album général qui est The Last of One, qui est sorti le 4 juin, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et j'ai fait, je crois, une vingtaine de versions différentes avec les potes. Et au final, c'est mon chéri qui m'a aidé à trouver les deux dernières qu'on a gardées pour le vinyle qui sortira bientôt, incessamment sous peu. Et c'est mon chéri qui m'a aidé à trouver les dernières parce que j'ai trop de mal à me décider, en fait.
Sur les images, non ? Sur les sons ?
Sur les deux dernières images, images qu'on utilise pour le visuel du vinyle, les pochettes intérieures et les macarons, ce qui sont les petits ronds au centre du vinyle. Ça, c'est mon chéri, il y a 3 jours, qui a validé.
Mais ça, je trouve que...
Ravi, je t'aime, merci.
Qu'on embrasse et qu'on remercie pour son travail absolument exploité. Mais je trouve que les amoureux, c'est souvent les meilleures personnes pour décider des photos de nous, je trouve.
C'est aussi frustrant que merveilleux, ouais. De demander de l'aide à sa chérie ou son compagnon, ouais.
Est-ce que, comment tu disais que tu étais contrôle fric sur ta créa, est-ce que du coup c'est difficile de travailler avec plusieurs autres personnes ? Ou pas du tout ?
Je crois que c'est plus facile pour moi de bosser avec d'autres gens, de faire des collabs.
Okay.
Parce que je pense que je suis trop exigeant avec moi-même. Et en fait, ça me fait du bien de faire une collab parce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider à trancher. Sinon, je ne m'arrêterai pas. Je vais te faire version 77++++ que je vais exporter de mon logiciel, version 450. Et il y a un moment où en fait, tu es en train de faire de la daube. Et à la base, c'était super cool ce que tu avais fait. Et s'il n'y a personne pour me dire stop... Ouais, je crois que je préfère la collab pour ça.
C'est ce que j'appelle le syndrome de Giacometti, qui était un sculpteur qui faisait des sculptures hyper longilignes. Et genre, mon père adorait ce sculpteur. Et un jour, j'ai appris que, en fait, sa technique, notamment quand il faisait des bustes, c'est qu'il prenait des petites pincées de matière, d'argile, je crois, et il les entassait pour modéliser petit à petit un visage. C'est pas, il creusait pas dedans, ça que je veux dire. Et
il accumulait la matière pour donner la
exactement.
Forme.
Exactement. Et du coup, genre, c'était problématique dans son cas parce qu'il était comme toi. Et du coup, en fait, il n'arrêtait pas de faire et de défaire, vu que c'est comme par touche tout le temps qui s'ajoute. Et en fait, on doit une partie de son travail aujourd'hui à son frère qui lui a littéralement volé ses œuvres enfermer quelque part parce que sinon son frère
il s'arrêtait jamais en fait
il s'arrêtait jamais
il surdosait
et il savait pas puis il les redéfaisait aussi, il les détissait du coup, tu vois. Et donc bon, du coup, voilà.
Il y a un petit effet miroir, j'avoue que t'as bien trouvé là, bien, bien, ouais. Bien, ouais.
Voilà, j'aime beaucoup l'imaginer le frère drama, tu sais, qui est là, qui est obligé d'enterrer les œuvres pour qu'il les sorte.
Ouais, mais j'ai pas mal de compagnons dans la musique qui ont fait ce rôle-là de frère Giacometti. J'ai eu avec Cosme quand je bossais avec lui sur un remix, sur deux, trois trucs, qui me disait mais non, mais juste ça, c'était très bien. Pourquoi t'avais besoin de faire 47 versions? La version 2 était la meilleure. Bon, du coup, j'avais sorti la version 2. Et ouais, bisous à Cosme, super artiste que j'aime beaucoup aussi.
Et qu'on embrasse. J'aime beaucoup, je pense que j'aime beaucoup embrasser les gens dans la radio, je veux dire. C'est très bizarre comment c'est dit. Je pense qu'un jour,
tu es en train d'embrasser un micro, ouais, là, actuellement.
Mais je pense qu'un jour, je vais régler ma frustration en faisant une émission entière de dédicaces. C'est comme les radios.
Que des bisous, mais grave.
C'est comme quand on était petit et que t'avais tout le monde qui appelait, même sur les télévisions.
Dédicaces à Big Up, à Tonio du 77.
Oh ouais, j'adore. Même si tu voyais les clips de Shakira et tu voyais les.
Mais oui, les textos qu'on envoyait. À énergie 12, oui, ou des trucs comme ça, mais bien sûr, j'en souviens. Attends, on est gamin des années 90 ou quoi?
C'est clair. Est-ce qu'on s'écouterait pas un autre de tes morceaux? Alors, lequel tu veux écouter?
On peut partir sur Whimper.
Allez, c'est parti pour Whimper. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. Pardon, vous allez écouter Whimper de Hobo Noise. À tout de suite. Fait différent du morceau qu'on vient d'écouter juste avant. C'est fou d'arriver à faire des choses aussi différentes. C'était quoi le destin de ce morceau?
Le destin de ce morceau, mais c'est par rapport à ta question tricky de tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais comme style de musique? Ben voilà, comme ça, c'est peut-être les auditeurs qui décideront, parce que je ne sais pas. En fait, ça, c'était mon tout premier album d'ambiance. Et celui-là, c'était un exercice dont j'étais assez fier et étonné, en fait, du résultat des auditeurs, parce que les gens l'ont beaucoup apprécié. Je pensais que j'allais les ennuyer à mourir avec ce morceau. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de gens qui l'ont utilisé dans des vidéos, dans des clips Insta, dans des films, dans des trucs. Et c'est un exercice que j'ai fait en branchant toutes mes machines. Alors, je ne vais pas utiliser le langage scientifique, mais j'avais acheté mon premier synthétiseur modulaire, le MS-20 de Korg. Et en fait, j'ai improvisé des boucles pendant toute une journée entière, du matin au soir. À la fin, j'ai fait un petit peu de découpage et paf, Whimper, ce morceau est né. Et je pense qu'il a une certaine franchise dedans. Et c'est ça, je pense, qui a pu plaire aux gens. Et beaucoup de mélancolie qui me décrit énormément.
C'est rigolo parce que quand j'ai écouté, je me suis tout de suite dit que ça c'était de la musique de film. Que vraiment, j'avais envie de voir un film. Et au moment où je dis ça, j'ai regardé toujours l'image qui est des montagnes. Et genre, tout ce que tu dis sur cette mélancolie, sur les films et tout, ça, je me suis dit, oh, j'aurais bien vu une version de Brokeback Mountain avec ce morceau.
Mais grave, genre, ah, mais
que j'ai revu il n'y a pas longtemps.
Faites un Brokeback Mountain 2, s'il vous plaît, je vous envoie la BO.
Ce serait... Mais bon, il faut que je fasse une émission sur ce film en entier. Bref, ce n'est pas le moment, c'est pas grave. est-ce que on n'écouterait pas un autre de tes morceaux? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on ferait pas un petit Bless?
Tu peux aller avec Bless, ouais, mon premier morceau pop, Bless, tu peux y aller.
Allez,
ouais.
C'est parti. On est de retour en studio avec Obo Noise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du chant? Comme ça, il paraît tu chantes.
Alors comme ça, il paraît que c'est ma voix. Oui, c'est ma voix. C'est la première fois que je pense j'assume en même temps ma voix que j'ai jamais vraiment aimée. Je suis pas chanteur, je suis produit de la musique, mais j'adore chanter. On a tous ce petit péché mignon de hurler sous la douche, hein, on le sait très bien.
Un très grand chanteur de douche, nous.
Et j'écoute pas mal de musique pop, un peu underground. J'écoute un spectacle serait large là-dessus. Et ça faisait très longtemps que je voulais faire mon projet, mais sans pour autant changer de nom. Pour moi, Obo Noise assume totalement ma propre schizophrénie musicale. et c'est ça qui est cool, je pense, de pas avoir 10 alias. Je pense que j'ai envie d'assumer tout sous un même nom.
Et en plus, c'est à l'image des sons que tu as choisis pour faire cette interview, parce que tu aurais pu choisir uniquement les sons qui sont hyper récents et qui sont de ton dernier projet. Et pourtant, tu fais aussi la part belle à des sons qui datent du Covid, à des sons qui datent d'avant le Covid.
Je voulais te montrer un truc un peu varié, en fait, parce que souvent, on colle une étiquette, ou on colle aux artistes en général, hein, beaucoup, une étiquette. Lui, il fait de la pop, lui, il fait de la techno, lui, il fait de l'électro, lui, il fait de la acid house. Non, tu peux aussi faire plusieurs trucs. Et assumer sous un même nom, faire plusieurs trucs.
Ouais, et puis je trouve que c'est d'autant plus cohérent avec la musique électronique particulièrement, parce que en fait, je trouve que en musique électronique, bon, il y a des amateurs qui vont te dire, moi, je n'aime que le techno acide, que la trance, etc.
Les puristes.
Exactement, les puristes. Mais par contre, c'est aussi un genre musical qui sait qu'il va y avoir beaucoup de gens qui écoutent pas forcément, qui sont pas forcément férus d'électronique, mais qui viennent pour faire la fête, mais qui viennent pour un concert, pour être avec des copains. Donc en fait, je trouve que c'est il y a des sous-genres de puristes, mais par contre, dans la pratique, c'est écouté par des gens qui peut-être n'écoutent que du rap sur Spotify ou que de la pop, etc.
Donc ouais, ça nous permet de proposer aussi à des profils très variés la musique qu'on fait, c'est ça qui est chouette. Mmh. S'il y a quelqu'un qui vient m'écouter parce qu'il veut écouter Sexy's Work, donc, qui est principalement techno-acide, mais peut-être qu'il va se surprendre ou se laisser emballer par un son ambiante ou au contraire fuir totalement. Mais je trouve ça fun d'assumer, en fait.
Grave. Je presse un peu pour écouter les autres morceaux parce que j'ai envie qu'on puisse arriver au sucre de la fin, un quiz que j'ai beaucoup apprécié faire. Donc je propose qu'on écoute du coup Cicada.
Allez.
Tu me disais que c'était pensé pour les musiques de films.
Ouais,
on se voit déjà en western. Alors moi, j'ai plusieurs questions.
Ouais, vas-y.
Parce que je veux tout savoir. Est-ce que The Last of One, c'est un rapport avec The Last of Us ou rien
non,
à voir ?
Non, rien à voir. Non, j'ai hésité pour le titre. En fait, The Last of One, c'est parce que c'est le dernier projet de mes trois albums ambiantes. On a entendu Whimper tout à l'heure qui vient de Grieving, mon premier album. Ensuite, on a eu Awake. Et The Last of One qui est sorti il y a 15 jours.
Et je voulais aussi te dire, moi en fait j'ai grandi dans une maison qui écoutait beaucoup de jazz fusion, et en fait ce morceau il me fait beaucoup penser à un morceau de Saint-Germain qui s'appelle Acid Flute.
Oh, tu me fais plaisir là.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé. Tu fais plaisir. Vraiment, c'est petite, j'avais 7 ans, je demandais à mon père de me la mettre pour faire les spectacles de danse.
Ah, mais la chance d'avoir grandi avec ça à 7 ans, c'est excellent.
Ça et Hadouk Trio aussi, qui est peut-être moins connu et qui justement utilise, est très étrange, je crois qu'ils ont fait un album qui s'appelle Chame Animal, je crois. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une des chansons de l'album qui s'appelle comme ça. Et en fait, c'est grave dans cette ambiance-là. C'est grave dans cette ambiance-là. Genre, moi, j'appelle ça du jazz fusion.
Ok, j'irai écouter ça avec beaucoup d'intérêt en vrai.
Ouais, tu vas kiffer. Genre, moi, quand j'écoutais Hadouk Trio et donc l'album de Chame Animal, moi, j'associe ça à du jazz fusion parce que c'est mon point de repère. Mais en fait, je trouve que il y a en termes d'ambiance, c'est ce morceau-là que Cicada, il est fait partie de cette famille-là. Donc franchement, je suis très enthousiaste.
C'est un album le dernier, donc Last of One, c'est un album que avec des noms de fleurs et des noms d'arbres.
Oh, j'adore. En off, tu me parlais du rapport en fait très historique qu'il y a avec les instruments que t'as choisis, et que tu me disais que c'est en plus la première fois que tu mettais des instruments
classiques acoustiques. Voilà. Ouais, c'est la toute première fois que j'utilise du violon, de la guitare, là en l'occurrence il y a du banjo. En fait, c'était une histoire de dualité, cette musique Cicada, entre le colon et le peuple indigène. À la base, je bossais pour un film qui s'appelait Indigène 2.0, sur lesquels j'avais fait plein de maquettes de sons, dont celle-là, je l'ai extraite et au final, je l'ai sortie pour un autre projet. Et donc, c'était la musique coloniale, donc le banjo, qu'on connaît du nord-américain colonialiste, et en fait la musique d'antan, les sons de flûte qu'on va entendre derrière, et c'est la dualité entre ces deux peuples.
Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que par le plus grand des hasards tu aurais vu le film qui est sorti il y a vraiment pas longtemps qui s'appelle Sinners?
Je crois que j'ai vu le truc passer, je ne l'ai absolument pas
raté. Ah, écoute, j'aimerais si un jour tu vois ce film qu'on papote, parce qu'en fait
avec plaisir, ouais.
Il y a plein de choses. Pour moi, c'est un des films les plus américains que j'ai jamais vu, tellement, mais dans le très bon sens du terme. Hein, et en fait, très vite dans le film, il te parle de la musique comme un lien pour faire le lien avec le passé, les ancêtres et le futur. Et donc, tu as cette scène qui se passe, je crois, le film se passe dans les années, je sais plus, 50, je crois, il me semble, mais je suis pas sûre. Bien avant même d'ailleurs. Et en fait, t'as cette scène absolument incroyable pour représenter ce truc-là. Ils te le disent, et après t'as une scène de bal où en fait tu vois plein de musique, plein de musiciens qui rentrent en scène et qui sont d'époques complètement différentes. Donc tu rentres dans un bal qui fait très bal des années 1900-1910. Et en fait, et tout est en plan séquence. Et la caméra se tourne et tu vois une guitare électrique. Et la caméra se tourne et tu vois un DJ. Et je trouvais ça magnifique qu'ils assument complètement et qu'ils fassent en plus une création musicale qui est complètement anachronique et qui à la fois est complètement intradiégétique. Donc vraiment,
excellent.
Voilà.
Excellent. Mais t'as plein de trucs à m'écrire pour après.
Oui, oui, après je te ferai une petite note avec plaisir.
Je suis pas mal dans les transports en ce moment. J'ai besoin d'avoir une petite liste de trucs,
je
de to-do list de ta part, s'il te plaît.
Ça va te plaire. Surtout qu'il y a le personnage principal joue d'une guitare qui est un modèle particulier qui existe qu'aux États-Unis, parce qu'en fait chez nous il y avait la guitare classique acoustique,
ouais.
Et puis ensuite les Américains ont développé la guitare électrique, et nous on a récupéré la guitare électrique finie, sauf qu'en fait il y a eu un entre-deux où il y avait on dirait une sorte de banjo électrique. Sauf qu'en fait c'est complètement mécanique, c'est acoustique, il y a
génial.
Pas d'électricité, genre,
ouais,
mais
ouais.
Ils ont mis une membrane et du fer, et c'est très particulier.
Ça donne une résonance particulière, genre électrifié, genre amplifié.
C'est-à-dire que si je te fais écouter le son, il y a moyen que tu me dises ok, il y a moyen que ce soit du banjo ou de la guitare électrique un peu bidouillée.
Mais je saurais pas te définir le truc. Quoi.
Mais ouais, c'est vraiment entre les deux. Écoutons du coup. Écoutons quoi ? Non, on va passer du coup aux deux morceaux que tu nous as préparé, parce que je t'ai demandé de venir avec deux morceaux qui t'inspirent.
On va commencer par Candy, tiens. Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et vous venez d'entendre Candy de Fever Ray. Benoît, tu es toujours avec nous. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter sur ce morceau ?
Alors, écoute, pour moi, Candy, c'est une chanson qui, comme Fever Ray, se donne pas tout de suite. Ce que j'aime dans ce morceau, c'est la manière dont Fever Ray explore un peu les désirs flous, les identités mouvantes, les émotions qui n'ont pas de nom. Pour moi, il y a quelque chose de toujours dans sa voix de très enfantin. Et en même temps, d'étrangement sensuel, de dérangeant, comme si on trouvait... c'est comme si tu te trouvais dans un rêve lucide entre tendresse et danger, mais tu sais pas trop comment t'en sortir. Moi, Fever Ray me parle par rapport à ça. Musicalement, c'est minimaliste, électronique, hypnotique. Les sons sont froids, presque indus. Mais la voix derrière humaine te ramène un petit peu de chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui donne la stabilité au morceau. C'est ça qu'on dit pour moi. Un moment suspendu où on sait plus trop bien ce qu'on ressent, mais on sent quelque chose qui nous transforme. Puis... il y a toujours cette manière qu'a Fever Ray de jouer avec les rôles, les genres, les masques. Ici, tout est flou, queer, libre. La chanson parle d'un lien intense, d'un besoin presque vital de l'autre, peur de l'abandon, quelque chose qui, pour moi, me parle personnellement, mais sans jamais tomber dans le cliché romantique, tu vois. C'est l'amour comme une obsession, comme un vertige, une métamorphose. Il y a toujours un truc poétique chez cet artiste que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, Candy, ouais, c'est une expérience... c'est autant sensoriel qu'émotionnel. C'est une chanson qui rassure pas, hein. Genre vraiment, non, elle te dérange, elle te trouble, mais c'est justement pour ça que je la trouve précieuse.
C'est très beau déjà, je trouve, tout ce que tu as à nous dire, et je suis d'accord avec toi, c'est très queer, je trouve, cette façon de parler de l'amour. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Je trouve que dans les représentations, c'est un peu en train de changer. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, en étant née dans les années 90, nos représentations, c'était soit c'est la peuchérisation à fond.
Ouais.
Donc vraiment, après, voilà, ça fait des beaux films. On parlait de Brokeback Mountain, c'est quand même des films qui ont de la valeur. Mais c'est souvent, oh, les peuchères, voilà. Soit c'est vraiment de la pédagogie.
Mm.
Et en fait, ça m'a beaucoup manqué pendant longtemps, cette espèce de tension qu'il y a entre quelque chose qui est hyper torride dans nos histoires, dans notre façon de tomber amoureux aussi, parce que c'est des, malheureusement, et c'est comme ça, en tout cas heureusement, malheureusement, ça fait partie de nous, mais c'est aussi des histoires d'amour où l'amour peut être danger aussi sur plein d'aspects. Et donc et je trouve que t'as très bien expliqué ce truc là dans la chanson Candy. Et
l'amour, pour moi, est autant effrayant que rassurant.
Ouais, c'est ça, c'est queer à 3000%. Hein.
Oui,
et quelle place elle y est là, cette artiste, dans ta vie, en fait?
Elle a une place extrêmement, extrêmement importante. Je pense que beaucoup de gens ont dû te dire ça à travers ce micro. Je pense que je ferais pas de musique sans avoir découvert des groupes pareils, aussi osés, aussi talentueux et aussi uniques, quoi.
Ouais.
Et en fait... ces gens qui n'ont pas froid aux yeux de te sortir quelque chose de « Ah, mais je m'en fous si les gens ne m'aiment pas. »
Mmh.
Ça te donne une certaine posture, une certaine position d'aimer ça parce que tu t'identifies à ça.
Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder le clip qui va avec ce morceau, parce que tu parlais du personnage de Fever Ray.
Bon courage.
C'est vraiment, j'ai l'impression de voir... genre du drag, mais du drag comme s'il y avait des genres comme le cinéma de genre, tu vois, genre du drag d'horreur, Tu vois ce que je veux dire, genre,
ouais, Martin Falk, son réalisateur vidéo, c'est incroyable son travail, mais c'est vrai que ce qu'il fait pour le projet Fever Ray, c'est assez troublant et hallucinant. Et pour le public queer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient aux multiples personnages aussi dérangés, dérangeants qu'il peut proposer dans l'écriture qu'il fait pour cet artiste.
J'aimerais qu'on écoute le deuxième morceau que tu nous as préparé. Il s'agit de Tal Habib, de, je vais essayer de ne pas trop écorcher, Shabjdid, je suppose, Shabjdid et Al-Nazer. Shabjdid, j'aime beaucoup comment ça sonne ce nom, pour des Marseillais qui n'arrêtent pas de dire Jdid. C'est parti, vous êtes sur Radio Galère, à tout de suite.
هل نستوي طبعا لا مع انه عدو لا يفقه شيء بل ينظر للمستقبل اعتد يتنظم يتأقلم احنا هناك حقيقة والعالم كلنا صديقة ها بس نندم من لا يندم نزرع من دمنا حديقة هل نستوي طبعا لا مع انه عدو لا يفقه شيء بل ينظر للمستقبل اعتد يتنظم يتأقلم احنا جئناك حقيقة والعالم كلنا صديقة ها بس نندم من لا يندم نزرع من دمنا حديقة انا سلطان سندال ببلاش ببكاش بمكان انا قص انا قصيص السلطة تعتنا سلطة بتجنن من غير سلطة انا بنتش عايش انا حرام بخزي شوفني شو بحزن بوت بالقطة بشوفني شو بخزن يا هلاك عذابك يا رحيل واكميل على هذا طبع على هذا ميلك يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة اعطيني يوم وبستحمل محتار مش عارف ايش اعمل وك يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة اعطيني وانا احمل وك يوم بالسنة محسوبك انا بديش منك غير يوم بالسنة طبعا لا مع انه عدو لا يفقه شيء بل ينظر للمستقبل اعتد يتنظم يتأقلم احنا جئناك حقيقة والعالم كلنا صديقة هي بس نندم من لا يندم نزرع من دمنا حديقة هل نستوي طبعا لا مع انه عدو لا يفقه شيء بل ينظر للمستقبل اعتد يتنظم يتأقلم احنا جئناك حقيقة والعالم كلنا صديقة هي بس نندم من لا يندم نزرع من دمنا حديقة انتاك اخت العراق اخت لبنان اخت سوريا الاردن كويس بس بتخوف مخابرات الاردن تخ مش مخدرات روحوا بتركيا او تل ابيب الابية او باوروبا طبعا بالشارع امشي وانت بتطحن غادم تاك اخت العراق اخت لبنان اخت سوريا الاردن كويسة بس بتخوف مخابرات الاردن تاخدش مخدرات روحوا بتركيا او تل ابيب الابية او باوروبا طبعا بالشارع امشي وانت بتطحن غاد هل نستوي طبعا لا مع انه عدو لا يفقه شيء بل ينظر للمستقبل اعتد يتنظم يتأقلم احنا هناك حقيقة والعالم كلنا صديقة هي بس نندم من لا يندم نزرع من دمنا حديقة هل نستوي طبعا لا مع انه عدو لا يفقه شيء بل ينظر للمستقبل اعتد يتنظم يتأقلم احنا جئناك حقيقة والعالم كلنا صديقة هي بس نندم من لا يندم نزرع من دمنا حديقة
sur Radio Galère 88.4, toujours à l'émission Kixa avec Obo Noise qui nous vient de nous présenter le morceau Tal Habib de Shabjdid. Et parle-nous un peu de ce morceau. Quel était-ce ?
Alors, tu veux savoir, je l'ai découvert il n'y a même pas 4-5 jours et je suis fan absolu de Shabjdid, mais surtout de ce morceau. Lui, justement, pour le coup, il ira pas pour faire joli. Il balance des vérités crues, directes, brutales. Un truc, mais c'est un peu violent, mais cool. Il parle d'un monde en total déséquilibre, des peuples oubliés, d'une jeunesse qui vit avec la peur et la colère comme seule compagne. Il cite pas directement des lieux, mais on devine que c'est le Moyen-Orient, la Palestine, Tel Aviv, peut-être Jérusalem, ou un mélange volontairement confus des deux pour dénoncer l'absurdité des frontières et des conflits. Donc un sujet qui est quand même autant d'actualité et un sujet qui touche énormément de personnes depuis toujours, on va pas se le mentir. Moi, ce que je ressens dans ce morceau, c'est une impossibilité d'être égal, et il le dit, dès le début de la chanson. Est-ce qu'on est égaux? Bien sûr que non. Ça, c'est sa première phrase, donc moi, ça m'a foutu une claque monumentale. C'est une vérité qui est impossible à ignorer, d'autant plus aujourd'hui avec les médias, parce qu'on y a tous accès, et une bonne partie en a accès. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que du peura, c'est que t'as de la drum and bass, t'as un peu de breakbeat, t'as presque de la new wave dedans. Enfin, c'est un mélange qui est ouf, hyper rapide, un peu créé en urgence. C'est pas un morceau contemplatif, tu vois. C'est, tu cours, tu cries, t'encaisses. C'est une musique de lutte. Forcément, ça me parle. Mais c'est pas que politique, c'est aussi existentiel. Chabjid, il parle là, tu sais, d'un avenir incertain, de rêves qu'on sabote, des kidnés, quoi. De pays qu'on saigne à blanc. Et moi, ce qui me touche là-dedans, c'est que même sans vivre sa réalité à lui, je ressens cette colère-là dans plein d'autres contextes, et dans ce contexte aussi, dans la violence sociale, dans l'oubli, dans la justice. Ce texte, en gros, il m'aide à mettre des mots sur un mal plus large. Et il me rappelle qu'il y a des voix, comme celle de Chabjid, par exemple, qui continuent de notre génération à résister avec art, avec force et courage. Et voilà, gros big up à ce gars, parce que j'en ai eu les larmes aux yeux dans le train quand je lisais les paroles, quand j'écoutais son album Sultan. Franchement, écoutez-le, c'est ouf.
C'est la lutte, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui traverse aussi beaucoup ton art. Pas uniquement d'ailleurs, mais
pas mal,
j'ai
ouais.
l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler comment t'as rencontré cette musique, comment tu l'as découverte?
Ah, ça c'est drôle, j'ai découverte sur une story Insta il y a genre une semaine de ça. C'était pour la Pride des banlieues à Paris. Pride qui existe depuis quelques années, mais dont on parle pas suffisamment, mais ils parlent très bien d'eux-mêmes, donc c'est cool. et en fait, tu avais le drapeau LGBTQIA+, pardon, je vais appeler mon orthophoniste après cette émission. Donc tu as le drapeau LGBT qui se transforme en drapeau palestinien derrière le visage d'une femme qui lève le poing. Et ça, c'était l'affiche de la Pride des banlieues. Et derrière, t'avais cette musique en story. Et je sais pas, d'un coup, j'étais en mode comme... J'ai remis la story 27 fois. Je suis allé chercher le morceau et je suis parti dans cet album. Et ça fait une semaine que je suis à fond dans l'album.
C'est le boost de cette story.
Mais ouais,
et à un tiers,
mais grave,
j'ai
merci,
pris uniquement...
la Pride des banlieues de m'avoir fait découvrir ça.
On va passer à la toute dernière partie de notre émission. Tu as eu le malheur de me dire que ton film de chevet, c'était Malabar Princesse.
Ah mon Dieu, pourquoi je me suis confiée autant?
Alors du coup, voilà, moi j'ai pas eu le temps de le voir malheureusement, mais enfin je l'ai déjà vu en fait quand il est sorti, parce que quand je me suis renseignée, j'ai déjà vu ce film, mais
yes.
On était en 2004 quoi. Donc,
oui, ouais, on était 2004-2009.
J'ai un peu oublié, mais j'ai quand même réussi à
ça nous fait pas du bien, ça t'était pas obligé. Hein.
Je suis désolée. mais du coup, je t'ai préparé un quiz.
Oh là là.
Avec nos deux films de chevet. Donc Malabar Princesse,
ouais.
Et moi, mon film de chevet à moi, c'est Harry Potter.
Ok.
Voilà. Alors, le principe de ce quiz, c'est des répliques. Donc j'ai choisi plusieurs répliques et toi, tu vas devoir me dire si ça fait partie de Malabar Princesse.
Ou Harry Potter.
Si ça fait partie de Harry Potter.
Oh mon Dieu.
Ou... si c'est des répliques d'autres films qu'ont fait le cast de Malabar Princesse. T'as capté?
Oh waouh!
Voilà.
Wow, c'est tordu, tu es quelqu'un de très tordu. Ah, j'adore ça.
Est-ce que tu es prêt?
Je crois que j'ai pas le choix, mais je suis prêt, ouais. Franchement, c'est drôle. Wow.
Première réplique. Un jour, le temps qui passe, ça devient le temps qui reste. Est-ce que c'est Malabar Princesse? Est-ce que c'est Harry Potter? Ou est-ce que c'est le cast dans d'autres films? Un jour, le temps qui passe, ça devient le temps qui reste.
Ça pourrait être une scène de Malabar Princesse quand ils sont dans le refuge, les gamins avec le guide qui les récupère dans l'hélico. Là.
Parce que, on le rappelle, Malabar Princesse, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est confié à son papy.
Du petit homme qui est confié à son papy.
Et qui doit naviguer le deuil de ses parents
de
ou
sa maman.
Sa maman,
de juste sa maman,
de
ouais.
sa mère qui est morte en faisant de l'alpinisme.
Exactement, voilà. En allant chercher les trésors perdus du Malabar Princesse, qui est un avion qui s'est écrasé dans le Mont Blanc, qui est une histoire totalement vraie. Moi qui habite en bas du Mont Blanc, à Chamonix, c'est un film qui me touche d'autant plus.
Ah, mais oui. Donc, un jour, le temps qui passe, ça devient le temps qui reste. Est-ce que tu dirais que c'est Malabar Princesse, Harry Potter ou autre ?
Ça pourrait être une scène de Malabar en refuge, mais...
Eh ben non, c'est, ça s'est tiré de Fauteuil d'orchestre de Jacques Grumberg avec...
Avec Claude Brasseur.
C'est Claude Brasseur.
Mais voilà. Oui, tu sais que c'est ma mère qui m'a forcé, pas forcé à voir ce film, mais qui m'a poussé à le voir. Et honte à moi.
Deuxième réplique. Soyez courageux comme ma mère, sinon vous ne lui faites pas honneur, sinon elle est morte pour rien, sinon le bocal restera vide à jamais.
Mais en fait, tu vas choisir des trucs qui sont tellement proches de la corde.
Je me mets dans la merde. Je me suis dit, il y a un monde dans lequel Malabar Princesse et Harry Potter sont deux films de
cheveux. Mais là, si tu parles de sa mère, en plus de bocaux dans lesquels on stockait les parties des corps humains retrouvés dans ce glacier... J'avais envie de te dire oui, mais non.
Soyez courageux comme ma mère, sinon vous ne lui faites pas honneur, sinon elle est morte pour rien, sinon le bocal restera vide à jamais.
Franchement, je pense que je vais me planter du début à la fin, mais c'est mon film de chevet, mais allez, Harry Potter.
C'est Harry Potter, ouais. C'est dans le 6e volet.
Oh, est-ce que je suis allé jusque-là, je sais pas.
Oh
désolé.
C'est pas grave, j'aime tout le monde. En fait, c'est ma scène favorite de toute la saga.
Mais c'est salaud parce que tu vas chercher des extraits qui sont très proches. Ça va parler de Daron, ça va parler de Boko, ça va parler d'honneur, de vie. C'est ça, c'est fourbe. Mais j'adore, j'aime beaucoup cette personne. Hein.
Troisième réplique. 4 minutes 44, c'est pas beau de vieillir. J'ai perdu la main, moi. Il y a 20 ans, je faisais ça en 3 minutes 50, moi. Faut que je retravaille mes trajectoires, c'est tout. C'est tout, que je fasse plus corps avec la machine.
Bah oui, Malabar Princesse, c'est quand il amène le gamin, le grand-père amène le petit homme. Grand-père joué par Jacques Villeray, incroyable. Ouais. Il amène son gamin à l'école en bobsleigh, parce qu'à l'époque il était champion de bobsleigh, le grand-père. Et il l'emmène en bobsleigh à l'école. Dans ce film, c'est la musique de René Aubry.
Tout à fait.
Je te laisserai écouter ça. Et donc,
mais on va la diffuser.
Bonne réponse, ouf, là c'est bon, lâche.
On va d'ailleurs la diffuser pendant le quiz.
Ah, génial.
Mais oui.
Super BO.
Très, 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 ouais, magnifique. N'aie pas pitié des morts et plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour.
Ça pourrait être du Malabar, en tout cas. C'est-à-dire que dans son visage, vous ne voyez pas, mais elle laisse rien transparaître. Tu vois, et elle fait tout pour que t'aies pas confiance en toi. Tu peux me la répéter,
oui, bien sûr. N'aie pas pitié des morts et plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour.
Je sais pas.
C'est Harry Potter. C'est une des répliques iconiques de Dumbledore qui fait le mage sage, quoi.
Oh.
Voilà. Ensuite. Oh, j'adore cette réplique.
Harry Potter.
L'histoire du pays, c'est l'histoire de ta connerie surtout.
Malabar Princesse, c'est quelle scène ça ? C'est ta connerie surtout. Oui, quand tu s'embrouilles entre Villeray et Brasseur.
Oui, en fait, Brasseur montre des images.
Du crash du Mont Blanc. Ouais.
Et il lui dit, mais ça va, c'est l'histoire du pays. Et l'autre lui répond, l'histoire du pays, c'est l'histoire de ta connerie.
L'histoire de ta connerie, parce que son gamin part tout seul en montagne chercher sa mère qui est disparue, parce qu'on a du mal à lui dire qu'elle est morte, quoi. Et ouais, très bel échange et super, super acteur dans cette scène. Fin.
Hugh Grant peut me prendre par les cheveux, me faire l'amour sans même me demander mon prénom. Je me fais le plus grand kiff de l'histoire des kiffs.
Parce que c'est moi un peu éméché en soirée, non?
Et là, elle sort le dossier. Tu
et arras,
alors, est-ce que c'est Malabar Princesse ou est-ce que c'est catégorie
l'un ni l'autre.
Autre? Oui, c'est l'un autre. C'est Michel Larocque qui joue le personnage de Isa dans Comme tu es belle et qui joue l'institutrice dans Malabar Princesse.
Et oui, Michel Larocque qui joue l'institutrice, elle est excellente dedans. J'aime beaucoup cette actrice. Elle fait partie de ces actrices depuis gamin qui m'ont un peu fasciné comme Karine Viard.
Ouais, tout à fait.
Ouais, c'était ces deux actrices qui avaient un rôle un peu... De tante et de daronne en même temps. J'ai beaucoup associé à ça étant gamin. On fait un bisou à Michel Larocque.
Et on fait un bisou, on embrasse à Michel Larocque évidemment. Enfin, j'ai pas envie de me recevoir des textos énervés de Michel Larocque. Comment ça?
Moi,
vous
m'avez
pas fait le bisou. Ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment. Vous pouvez toujours les trouver dans votre cœur. Malabar Princesse ou Harry Potter?
Ça pourrait être Malabar. Ça pourrait être Malabar Princesse.
C'est Harry Potter. C'est Sirius Black qui dit ça à Harry.
C'est salaud, comment tu fais pour trouver des répliques qui sont aussi tangibles entre nos deux films préférés et que je sois pas foutu? penses-tu de
ça? C'est parce que tu touches à la folie que j'ai autour de Harry Potter.
Et que tu fais beaucoup trop bien ton taf, c'est effrayant.
En fait, à chaque fois que genre, j'ai deux projets de radio, le Kiksa ici et Velouté de Champignons en podcast. Et genre dans les deux émissions, j'essaye au maximum de mettre des références d'Harry Potter. Donc je deviens...
Tu deviens un web
pro. C'est
pas
sain, voilà.
Non, non, c'est pas sain parce que tu mets toutes les chances de ton côté, je le vois bien. Je le vois bien.
Réplique suivante.
Vas-y.
L'important, c'est que ta maman, elle est bien vivante, là, dans ta tête.
Dans ta tête, ouais, Malabar française.
Ça, c'est la version ouais, Malabar française. Ouais, j'ai voulu mettre les deux répliques
salaud,
côte à côte.
Mais j'adore.
Parce que vraiment, elles, sont, ouais. elles se répondent quand même. Vous me faites peine à voir, on dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course.
Mais ça me dit quelque chose, mais je sais plus d'où. Mais ça me dit un truc.
Faites c'est peine
à... On dirait du Kaamelott, hein, là, rien c'est... à voir. Oui. On dirait du Astier. J'ai pas la ref, mais j'adore la réplique. Mais bordel, mais bien sûr, bien sûr.
On dirait un cheval qui a raté une haie, on vous abattrait sur un
mais
champ
oui
de course.
Mais oui.
J'adore.
Elle est excellente, elle est incroyable.
Et ce film marche toujours parce que je travaille dans un internat et j'ai montré, on a montré le dîner de cons à des adolescents ouais. de 16 ans qui en ont rien à cirer et qui ont peur de tout, qui sont hyper nomophobes et ils ont adoré donc le dîner de cons est validé
ouais,
par les
ados.
Ouais,
mais c'est intergénérationnel, ouais, c'est comme Père Noël est une ordure. Bon, peut-être pas pour les plus jeunes, mais c'est ouf que ces films ne vieillissent pas.
C'est ouf, hein.
Mais nous, oui.
Dans tes yeux, j'ai trouvé ma maison.
On dirait vraiment une phrase de brouteur à Courju à 5h du mat. Non, j'ai pas.
Eh ben, c'est Harry Potter et ça m'a étonnée parce que j'étais pas au courant.
Ah ouais, ah, tu t'es fait du mal toute seule.
Ouais.
Oh non, Bichette.
J'étais pas contente, alors je l'ai mis dans le quiz.
Ah, excellent.
Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager.
Ça pourrait être le père du petit Tom, mais aucune idée.
C'est dans Papy fait de la résistance.
Ah ouais.
C'est Jacques Villeret qui est dans le rôle de Ludwig von Apfelstrudel. Et en fait, dans cette, il est en accent allemand H24 dans le film.
What?
Et il chante
l'époque
à un moment donné.
Où il pouvait faire ça dans les films. Parce
exactement.
Que ouais, ça
voilà.
Pas.
Ça valait le coup d'être dit.
Ah ouf, ben je le regarderai ce soir, écoute.
Il vient pour faire une émission de radio, il repart avec des
mais ouais,
de
avec
références,
des trucs à
deux
faire,
mois.
Mais surtout que je vais vraiment le faire, c'est ça le plus ouf.
Ce ne sont pas nos capacités qui montrent qui nous sommes, mais nos choix. Harry Potter ou Malabar Princesse ?
Je vais mettre ça sur la chaleur qu'il fait dans ce studio de radio, mais j'avoue que je sèche.
Eh ben c'est Harry Potter. Encore une phrase de Dumbledore.
Ah, mais quel sage.
Ah, quel sage, quel ce homme. Dumbledore. Et maintenant, la dernière que j'adore... En 4x4 ou en hélico, vous êtes tous aussi bas du front dans cette vallée.
Tous aussi bas du front dans cette vallée. C'est Michel Larocque qui sort ça au pilote de la PGHM quand l'hélico atterrit. Ouais, Michel Larocque dans Malabar Princesse.
Ce qui clôt notre quiz
mais oui.
de film de chevet, Malabar Princesse vs Harry
ah, mais
Potter.
Le truc jamais de ma vie. J'ai cru que j'arriverais dans une radio et on va me dire bon, on va faire un battle. Malabar Princesse ou Harry Potter, tu sens un peu le truc mesquin de base. Mais le pire, c'est qu'elle va te chercher des phrases
oui.
qui sont tellement proches. On va parler de maman, on va parler de parents morts, et c'est impossible de savoir. Non, mais tu fais très bien ton taf, c'est autant perturbant que frustrant.
Il faudra que tu reviennes pour que je te refasse d'autres quiz.
Ah, mais grave, avec voilà. plaisir.
La prochaine fois, je regarderai les
ouais,
films.
Ouais. Mais moi, je t'imposerai un truc qui n'est pas Harry Potter. Alors.
Oui. Oh, genre, moi j'avais fait ça, j'adore.
Allez, bim.
Et bah, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Avec plaisir.
Et je propose que on se quitte avec donc Palmera, qui est un des morceaux phares de ton dernier album EP.
Ouais, The Last of One.
Voilà. Et il va falloir rester branché sur Instagram. Donc c'est
Obonoise.
Il n'y a pas de tiré, il n'y a
tout
pas de...
accroché. H-O-B-O-N-O-I-S-E.
Voilà, et donc si vous restez accroché bien, vous aurez à un moment donné le privilège de pouvoir voir le clip de ce morceau. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à bientôt.
À bientôt, salut.